Chapitre 6. La fin du voyage. Les choses ne s'arrangèrent pas aussi vite pour Eudoxie que Pierre l'avait supposé. Le commissaire de police, auquel sœur Louise s'adressa pour les formalités de passeport, exigea une autorisation du père d'Eudoxie, celle-ci étant mineure. La correspondance traîna 2 ou 3 jours, et tout à coup, contre toute attente, la frontière se rouvrit. Le chef de gare envoya Popol en grande hâte pour prévenir Pierre que le train de Suisse partirait le lendemain matin à l'heure de l'horaire. Eudoxie, qui était venue dire bonsoir à sœur Louise, se trouvait présente et elle poussa des cris de désespoir quand elle comprit que Pierre allait partir sans elle.
« Vous pourriez m'attendre !» suppliait la pauvre petite bonne. « Mon papa, qui est Jules Voitoux à Bonnet-sur-Bonne, ne va pas tarder à écrire. » C'est vrai qu'il ne sait pas écrire, mais il ira chez le curé ou chez le maître d'école, on lui fera la lettre. Après, c'est rien d'avoir mon passeport. Je pourrais même essayer de passer comme ça. Qui est-ce qui ferait attention à une pauvre créature tout de travers ?
Mais ma bonne Eudoxie, dit Pierre, ayez donc un peu de patience et de raison. Moi, vous savez, je compte les minutes et mes amis en Suisse sont inquiets très probablement. Vous voyagerez seul un peu plus tard. Sœur Louise vous donnera les instructions nécessaires, paiera votre billet avec de l'argent que je lui laisserai, vous mettra dans le train. De Genève, vous télégraphierez à mon adresse.
Oh là là, oh là là ! Gémissait Eudoxie. Jamais saurez-vous trouver dans cette Suisse pleine de montagnes de glace où ce qu'on monte avec des crochets.
Au lieu de dire des bêtises, Eudoxie, fit sœur Louise, tu devrais t'inquiéter pour Monsieur Royat qui va partir seul. Je me demande comment vous allez voyager, passer Genève. Vous aurez à changer de train 2 ou 3 fois. La Providence qui m'a traité des griffes de Zanzouli me fera parvenir à bon port, fit Pierre en souriant. Si quelqu'un m'avait dit à Paris, au départ, que je devrais passer 4 jours seul à Bellegarde, j'aurais peut-être hésité à me mettre en route. Et pourtant, voyez, ma sœur, comme il a été pourvu à tout. Grâce à votre bonté, grâce aux petits-enfants de la garderie et à leur institutrice, je ne me suis même pas ennuyée. Mais vous êtes enchanté de nous quitter, monsieur Pierre, ça se comprend. Tâchez de nous envoyer un mot quand vous serez rendu là-bas. Eudoxie et moi, nous serons sur des épines. Le temps fut bref pour les adieux, pour les petits emballages et les dernières recommandations. Eudoxie trouva moyen d'être à la gare à l'heure matinale, se précipita dans le wagon pour encombrer Pierre d'un petit panier de pêche et d'un gros bouquet. Puis, sur le quai, donna le spectacle d'une entière désolation. Sœur Louise, en installant Pierre, lui avait dit « Vous avez des compagnons de voyage tout à fait bien. » Le jeune homme à votre droite est décoré de la croix de guerre. Parlez-lui. Au revoir, cher soldat. Bon voyage. Ma sœur, si vous preniez Eudoxie chez vous, je serai plus tranquille.
Bien, bien, le méchant Turc sera surveillé, dit la bonne sœur, qui serra encore une fois la main de Pierre dans les siennes et sortit du wagon.
Ah, quelle joie maintenant de sentir les kilomètres filer derrière l'express et la frontière suisse se rapprocher à chaque tour de roue. Trop impatient, trop plein de pensées ardentes qui toutes volaient vers la fiancée, Pierre s'arracha par force à ses heureuses anticipations du revoir pour causer un peu, pour répondre à quelques questions discrètes et à des offres obligeantes. On arrivait à Genève. Les longues formalités du visa, puis de la distribution des cartes de vivres provisoires, furent abrégées pour lui et pour le jeune soldat en civil qui lui avait offert son escorte. Que faire maintenant ? Télégraphier à M. Martin, qui accourait assurément pour lui aider à faire le reste du trajet. L'indicateur des chemins de fer fut consulté. Les trains étaient assez rares. Même en partant immédiatement, M. Martin ne pouvait être à Genève qu'à minuit. C'était ne voir Lucette que dans 24 heures. Une catastrophe pareille ne se pouvait accepter. « Mettez-moi dans le prochain train pour Lausanne et je me débrouillerai, » dit Pierre à son guide. « Je connais par expérience l'obligeance des employés en Suisse. J'arriverai tout droit et tout seul à la maison où je suis attendu.
Mais non, je ne suis pas attendue, c'est la beauté de la situation. » Changement de train à Lausanne. Pierre passait des mains d'un contrôleur au bras d'un voyageur, recevait partout des conseils pleins de sollicitude, traversait une gare, montait dans un tram, le dernier. Et quand il eut prononcé « Villa des Rosiers », le conducteur du tram lui dit « J'arrêterai en face pour vous. L'arrêt est plus loin. Mais comment trouverez-vous la grille? Il fait nuit noire. » « Tiens, il doit être près de 11 heures en effet, » fit Pierre en consultant sa montre du doigt. « Pour moi, il fait toujours clair, » dit-il en riant au conducteur apitoyé. « Je trouverai la grille aussi bien qu'en plein jour. » « Tout de même, je descendrai avec vous, c'est plus sûr, » dit un monsieur. « Je veux bien, mais à la condition que vous me quitterez dès que j'aurai sonné. » Pierre ne voulait pas manquer son effet. La grille s'ouvrait par un tirage automatique. Elle roula avec un petit grincement que Pierre reconnut comme si c'eût été une voix amie. L'allée, carrelée de briques, montait jusqu'au perron. Pierre, aidé de sa canne, s'y dirigea sans hésitation. Sous la porte entr'ouverte, une lampe électrique s'alluma. Une voix s'exclama « Non, ce n'est pas possible! Monsieur, monsieur Pierre, tout seul ?»« C'est vous, Catherine, comment m'avez-vous reconnu ?»« Mais je vous vois, j'ai éclairé. » « Qu'est-ce que c'est, Catherine ?» demanda au fond du vestibule monsieur Martin qui sortait du fumoir. « Un passant, à cette heure-ci, laissez-moi lui parler, vous n'auriez pas dû ouvrir la grille. »« Je n'ai rien mangé depuis ce matin, sauf une demi-douzaine de pêches, » dit Pierre d'une voix qui tremblait de rire. « Vous dites ? Mais je crois ? Non, ma parole ! Non, j'ai... » « Vous avez une hallucination, » acheva Pierre. « Vous contemplez le corps astral de Pierre Royan, votre futur gendre. Comment se trouverait-il dans votre jardin à l'heure qu'il est ?» Monsieur Martin était déjà au bas des marches et serrait Pierre dans ses bras. « Ces dames sont couchées, » fit-il tout haletant d'émotion. « Catherine allait les prévenir avec ménagement. Et puis, trouvez vite quelque chose à manger. Mon pauvre Pierre, « est-ce vrai que tu n'as rien pris depuis ce matin ?» 3 minutes après, Lucette descendait comme un bolide, se jetait au cou de Pierre, qui, cette fois, eut bien de la peine à empêcher ses lèvres de trembler et à faire sortir un son convenable de sa gorge serrée. « Mon trésor, ma Lucette » murmura-t-il en effleurant les cheveux et la joue de la chère petite tête qui se pressait contre son épaule. « Ah, 7 minutes vaut bien 5 jours de voyage !»